Vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invitée de Pluriel, Fabienne Keller, députée européenne du groupe Renew Europe, ancienne maire de Strasbourg, questeur du Parlement européen. Bonjour, madame.
Bonjour.
L'Union européenne traverse une période charnière, immigration, relations avec le voisinage méditerranéen, montée des populismes. Fabienne Keller, vous êtes tout récemment opposée au projet des hubs de retour adopté par le Parlement européen. Il s'agit d'externaliser certains retours de migrants déboutés du droit d'asile. Vous qualifiez cette mesure d'inefficace, de simpliste et d'inhumaine. Une majorité du Parlement a donc soutenu cette mesure. Ce vote, est-ce qu'il marque, selon vous, un changement profond de la politique migratoire européenne ?
Oui, il marque un changement profond qui caractérise ce nouveau mandat depuis 2024, depuis la dernière élection européenne. Nous avons en fait une majorité alternative qui est composée du PPE et de l'extrême droite, là où depuis longtemps au Parlement européen, c'était une majorité autour du centre avec les socialistes et le PPE qui était généralement opérationnel pour l'ensemble des textes. Donc un texte sur les retours qui sont possibles, donc on peut envoyer des familles dans un pays tiers, dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine, avec lequel elles n'ont aucun lien, ce qui n'est pas du tout respectueux de leurs droits fondamentaux, ce qui ne fait aucun sens pour les enfants et les familles.
Et on comprend hein, que ce qui vous inquiète, c'est bien entendu ce texte, ses conséquences, mais aussi la majorité politique qui a rendu possible son adoption.
Bien sûr, cette majorité politique, elle s'exprime désormais sur les textes migratoires, d'une part, et d'autre part, sur les sujets de l'environnement, il a conduit, sous le prétexte d'une simplification, à un détricotage d'un certain nombre de textes protecteurs, comme par exemple celui sur la déforestation. On avait voté au mandat précédent le principe de ne plus importer des produits issus de la déforestation. Hein, la forêt dans le monde, c'est le principal puits de carbone. Cette réforme a été reportée avec cette majorité composée avec l'extrême droite.
Les personnes, les députés qui ont voté pour cette réforme soulignent qu'aujourd'hui, moins d'un migrant débouté sur cinq est effectivement reconduit. Quelles sont les solutions alternatives à ce type de réforme ?
Alors si je reviens effectivement au texte sur les retours, nous avons souhaité permettre à l'Europe de maîtriser sa migration à travers un ensemble de mesures qu'on appelle le pacte asile-migration qui se met progressivement, trop lentement à mon goût, en place dans l'ensemble des États membres. La solution de retourner les gens n'importe où n'est en fait pas une solution stable. Une personne qui est envoyée loin de chez elle, elle va être mobile et très vraisemblablement revenir en Europe. Donc cela ne résout en rien la question de la maîtrise de la migration. Le pacte, quant à lui, est plus équilibré et comporte un ensemble de mesures avec notamment un enregistrement systématique sur toutes les frontières Schengen des personnes qui entrent illégalement dans un fichier spécifique qu'on appelle Eurodac et la mise en place de procédures dans tous les États membres accélérées. Il faut arrêter de faire traîner les personnes trop longtemps dans des procédures avec une installation de fait en Europe et la remplacer par ces procédures accélérées qui incluent le retour. Il faut que les États membres s'organisent pour ça. Pourquoi 4 personnes sur 5 ne sont pas retournées ? Parce que les États membres aujourd'hui ne mettent pas les moyens pour organiser ces retours. Les nouveaux règlements prévoient une organisation identique dans tous les États membres, ce qui évite aussi les doublons et une inefficacité entre États membres.
Les États membres, quelle que soit la couleur politique de leur exécutif ?
Exactement. Les textes adoptés dans le pacte asile-migration prévoit les mêmes règles, c'est un ensemble de 10 textes, hein. C'est pour les procédures aux frontières, mais aussi pour les conditions d'accueil, pour notre réaction collective en situation de crise, pour des règles sur la solidarité entre les États membres, puisqu'il y a des États membres qui accueillent beaucoup, parce qu'ils sont sur les rivages de la Méditerranée pour l'essentiel, ou en bordure des Balkans pour d'autres, et puis il y a la situation particulière des Canaries, qui voit beaucoup de migration en provenance des côtes africaines. Donc ce sont des textes qui visent à, au fond, harmoniser le droit d'être présent sur le sol européen en termes d'asile et d'immigration, alors que nos frontières sont déjà gérées à l'échelle européenne, qui est la zone Schengen et la libre circulation à l'intérieur de cette zone. C'est donc un moyen de rendre plus efficace notre stratégie désormais partagée. Maintenant, il faut que chaque État membre fasse des efforts pour le mettre en œuvre. On avance, mais pas assez rapidement. D'où cette forme de pression politique à une solution rapide qui semblerait plus efficace, mais qui est illusoire.
Justement, lorsque l'on suit les débats du Parlement européen, les différents textes, il peut ressortir parfois le sentiment que les relations avec les pays de la rive sud de la Méditerranée sont devenues quasi exclusivement migratoires. Est-ce une réalité aujourd'hui ou est-ce une erreur de vision ?
Cela peut être perçu et ce serait vraiment très dommage parce que si je pense par exemple avec à nos relations avec certains pays africains, elles sont historiques, elles sont culturelles, elles sont dans le domaine de la formation, de l'université, elles sont liées aux diasporas respectives. Donc elles sont, il y a des accords commerciaux très anciens qui sont régulièrement renouée, réécrite. Si je pense au Maroc, une relation qui s'est beaucoup apaisée avec la reconnaissance du Sahara occidental, certes mal acceptée par l'Algérie voisine, mais on est dans une relation très complète entre deux entités souveraines, l'Europe d'un côté et un pays d'Afrique de l'autre, donc elle ne peut pas se limiter à la seule migration. À l'inverse, une reconnaissance réciproque des ressortissants est indispensable et devrait permettre de faciliter ce qu'on appelle les retours, parce qu'un État souverain, ben, il reconnaît ses ressortissants. C'est normal, c'est banal.
Et la voix de l'Union européenne à l'international, par exemple, sur différents conflits, on peut penser au conflit à Gaza, est-ce que cette voix est suffisamment forte ?
Ah, elle est... On l'aimerait plus forte encore. On aimerait aussi que la voix du Parlement soit reconnue. Nous avons adopté une large majorité, une solution à deux États. Nous appelons un droit d'accès, du soutien humanitaire pour l'ensemble du territoire de Gaza, pour aider les réfugiés en grande souffrance. C'est la voie évidemment de la modération, de la solution de long terme, une volonté de trouver enfin une issue à ce conflit qui n'a que trop duré et qui passe par des violences inouïes. Donc c'est la voie européenne a parfois du mal à passer aussi par rapport à celle des États membres individuels qui souhaitent garder une forme d'autonomie en termes de diplomatie. Donc ça, c'est parfois le charme de l'Europe, une voie européenne, mais aussi des sensibilités un peu différentes d'un État membre à l'autre. Il faut l'accepter. Mais je pense sur le conflit entre Israël et la Palestine, nous souhaitons vraiment très fortement, très majoritairement, une solution négociée à deux États.
Oui, parce qu'une partie de l'opinion aujourd'hui considère que l'Europe peut être plus exigeante sur le respect du droit international dans certains conflits que dans d'autres. Est-ce que vous partagez cette perception ou est-ce que vous la comprenez ?
Je crois qu'elle existe. Cette perception, donc c'est un fait politique. Le mandat donné aux institutions européennes, à la haute représentante de l'Union européenne, Kaya Kallas, est clairement de défendre le droit international partout. Nous croyons au multilatéralisme, nous sommes d'ailleurs un de ses outils, nous croyons à sa puissance, à la difficulté de la faire accepter, hein, ces accords internationaux. Mais à leur puissance aussi, ils ont été construits au lendemain de la guerre pour tenter d'éviter les grands conflits mondiaux. Donc oui, cela reste une exigence et très régulièrement, mes collègues qui sont dans la commission des affaires internationales rappellent l'importance de ces accords internationaux.
Au sein de l'Union européenne, la voix de la France compte, bien entendu, et elle a compté notamment récemment dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis avec une victoire de la diplomatie qui était prônée par Emmanuel Macron, même si les tensions persistent très fortement avec le cessez-le-feu, est plus que fragilisée.
Oui, l'action du président Emmanuel Macron a été déterminante. pour la construction d'une opinion, d'une position européenne. Il a non seulement fédéré ses collègues, chefs d'État et de gouvernement d'Europe, sur une position commune, mais il a guidé aussi l'action militaire par l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle, accompagné de l'ensemble de son escorte, et la mobilisation d'autres forces maritimes européennes dans le même dispositif, d'abord de sécurisation de Chypre, où vous vous souvenez de cet événement d'arrivée d'un missile probablement lancé à partir de la bande de Gaza, et puis ensuite s'approchant du détroit d'Ormuz comme une pression exercée, mais dans un objectif de maintien de la paix et pas de participation au conflit déclenché par les États-Unis. Donc une posture européenne claire, qui a été initiée par le président Macron et qui a su fédérer l'ensemble des États européens, c'est assez remarquable.
Emmanuel Macron, qui aura vécu son dernier 14 juillet en tant que président de la République, l'Union européenne a été à l'honneur avec différents chefs d'État et de gouvernement européens présents. L'Ukraine aussi, la présence de Volodymyr Zelensky. Est-ce que cela suscite une crainte chez vous ? L'après Macron et justement ce qui pourrait se passer avec une sensibilité qui serait très différente d'aujourd'hui concernant la défense de l'Ukraine.
Alors, avant de parler de l'après Macron, je voudrais vous dire que j'ai eu la chance d'être avec un certain nombre de collègues de tous les États membres de l'Europe dans la tribune et j'ai vu le défilé. C'était un moment très émouvant. Nos collègues européens, baltes, polonais, exposés à la guerre, ont pu voir tous ces membres de la coalition des volontaires, ont pu voir les détachements de leur pays défilant en tête du défilé français du 14 juillet, le président Volodymyr Zelensky, accueilli par tous les chefs d'État de la coalition des volontaires, présents également sur la tribune présidentielle. C'était un grand moment très émouvant de force transmise à l'Ukraine, de soutien et de puissance aussi, de voir toutes ces armées en capacité de travailler ensemble. Alors, que se passera-t-il en cas de changement de président ? Le président changera, c'est sûr. Si d'aventure, comme le suggéreraient les sondages, l'extrême droite gagnait, évidemment, nous sommes extrêmement inquiets. Le Rassemblement national au Parlement est allié du groupe pro-russe, représentant le Hongrois Viktor Orban, et donc ne soutient pas aujourd'hui l'Ukraine dans cette stratégie de défense des frontières européennes. Hein. L'Ukraine protège l'ensemble de l'Union européenne, se bat pour nous avec un courage d'ailleurs exemplaire. Donc évidemment, en termes géostratégiques, la perspective de voir l'extrême droite arriver au pouvoir en France est extrêmement inquiétante. Il pourrait s'allier à d'autres forces d'extrême droite en Europe et progressivement changer les postures européennes, parce que malheureusement l'extrême droite progresse dans plusieurs États membres et il y a plusieurs élections majeures l'année prochaine. Donc oui, grande inquiétude sur la vision géostratégique du Rassemblement national et de l'extrême droite européenne.
Et des extrêmes, en règle générale, droite et gauche également, quand vous voyez la position de Jean-Luc Mélenchon qui a évolué hein, au fil des années.
Mais... Alors, moins clair, hein, compte tenu justement de son évolution, mais bien sûr inquiétante aussi. C'est pour cela qu'avec clarté, moi je soutiens aujourd'hui Gabriel Attal dans l'élection présidentielle, j'espère demain aussi, mais dans tous les cas, le champion qui sera désigné par... le centre, au plus tard en janvier, autour d'une candidature unique fédérant les forces pro-démocratiques et surtout pro-européennes qui sont présentes en France.
Et cela impliquerait, bien entendu, le désistement des autres candidats, comme Édouard Philippe, par exemple, ceux qui ne se sont pas encore déclarés. Vous souhaitez également le désistement de la droite, le candidat Bruno Retailleau, chef DLR ?
Oui, pour ma part, je pense qu'un rassemblement doit être aussi large que possible. Est-ce qu'il peut aller jusqu'à Bruno Retailleau ? Je ne sais pas. Sauf si celui-ci il y a une autre candidature, hein, qui pourrait être cette candidature de l'Union des droites, hein, qui peut apparaître. Je suis très frappée par le travail en commun au Parlement européen entre quelqu'un comme M. Bellamy ou M. Gomard et l'extrême droite. S'agissant de Gabriel Attal et d'Édouard Philippe, ils ont convenu, à l'initiative d'ailleurs de Gabriel Attal, au plus tard en janvier, de se mettre d'accord sur une seule candidature qui fédérerait l'ensemble du centre-droit, centre-gauche et, si possible, la partie républicaine du Parti des Républicains et peut-être aussi des socialistes les plus modérés et ouverts. Il faut créer une plateforme centrale pro-européenne commune pour porter notre vision dans le cadre des élections présidentielles.
Et pourquoi, selon vous, Gabriel Attal représenterait-il mieux la France que l'ancien Premier ministre également, Édouard Philippe ?
Ça, c'est un débat que les Français trancheront. Je crois qu'ils ont tous les deux la sagesse de mettre en place donc, ce qu'on appelle ce groupe de contact entre le représentant d'Horizon et celui de Renaissance pour dialoguer régulièrement pendant les campagnes, la double campagne, et préparer les fondations d'un rassemblement qui est nécessaire, qui sera nécessaire, nous le voyons dès à présent, donc au plus tard, au début de l'année prochaine.
Merci beaucoup, madame.
Merci à vous.
Fabienne Keller, vous êtes députée européenne, membre du groupe Renew Europe, ancienne maire de Strasbourg et questeur du Parlement européen. Et vous soutenez Gabriel Attal pour la présidentielle de 2027. Merci à vous également, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.